Léon Mazerois, du recueil Lirelonla, L'épreuve. Cette petite comtesse Micheline eût été la plus désirable maîtresse qui se pût rêver, avec sa tête mignarde de soubrette blonde, ses yeux d'une douceur voilée, et dont la teinte étrange faisait songer aux gouttes tièdes de café qui se filent au fond d'une tasse, son corps délicat, sans lignes, toujours enveloppé de fantaisistes étoffes, et son bagout de gamine parisienne, transplanté à regret par le sacrement dans une bonne vieille ville de province. Mais, ne sachant comment tuer les heures longues, elle avait lu, elle lisait encore tant de romans absurdes que sa cervelle de linotte en était comme fêlée. La vie ne lui semblait qu'un prétexte à aventure impossible. Son esprit vagabondait perpétuellement des pays fabuleux. Elle se passionnait pour d'idéales amours. Elle souhaitait d'être une reine adorée vers laquelle les hommes se traîneraient agenouillés. Une idole dont on baignerait les pieds paresseux sous des ruisseaux roulant périris. Pour elle, pour attendrir le froid sourire de ses lèvres muettes, les coups d'épée tragiques flamboieraient chaque soir. Les poètes chanteraient sur des airs langoureux de sérénades leurs sonnets extasiés. On irait au bout du monde chercher les roses bleues et la pierre philosophale. On tenterait d'invraisemblablement choses, des folies téméraires comme celles qui racontent naïvement les anciennes légendes de paladins. Le mari, qui était chauve, pratique et membre du cercle des pommes de terre, qui cherchait depuis 10 ans pour ses terres le moyen de remplacer le guano par un engrais plus économique, avait de guerre lasse abandonné la partie. Il laissait la comtesse toute seule poursuivre à sa guise les chimères familières et s'enterrait paisiblement à la campagne 3 saisons sur 4, souvent même pendant les 12 mois de l'année. Aussi les galants lieutenants de la garnison se disputaient-ils le cœur de la pauvre petite femme délaissée dans son grand hôtel sombre. La rue sommeillante, déserte, herbeuse comme un chemin qui longe les champs, était réveillée par les piaffements des chevaux qui s'ébrouaient, par un bruit de sabre traînant sur les pavés. Peine perdue, car la comtesse Micheline avait fait son choix sans prévenir personne. Hector de Montesquour, le grand auteur, pouvait en tenir le pari contre n'importe lequel de ses camarades. Pas si drôle que ça, d'ailleurs, cette maraude au pays du tendre, dans les jupons d'une toquée qui vous cassait ses éventails sur les doigts et vous tenait la dragée haute de désespérante façon. La comtesse éprouvait des jouissances délicieuses, se sentant adorée, désirée vainement. Elle s'offrait tout entière, sans se donner jamais. Elle enveloppait son amoureux comme d'une chaîne aux anneaux implacablement rivés. Elle en faisait son joujou, et il lui obéissait. Elle consentait à être coupable, à jeter son bonnet par-dessus les moulins, mais dans un emportement fougueux de passion, vaincue, heureuse, tout entière à celui qu'elle avait choisi, et certaine, après plusieurs épreuves, qu'elle était idolâtrée comme jamais aucune créature n'avait encore été aimée. Alors, ils se sauveraient ensemble. Elle se moquait du monde, de la famille, des préjugés, de toute la boue que la ville jetterait derrière elle, à pelleter. Ils vivraient l'un pour l'autre, oubliant le passé et cachant à tous leur béatitude divine. Jusque-là, le grand auteur devait se languir de sa belle, comme on dit en Provence, et la contemplait pieusement, ainsi qu'une madone sainte qu'il est défendu d'effleurer. Les autres auraient-ils assez gouaillé, s'ils avaient su cela? Cependant, Montesquour commençait à entrevoir la terre promise. Il avait victorieusement gagné sa récompense. Les fantaisies romanesques de la petite comtesse semblaient épuisées. Elle devenait moins farouche. La statue s'animait enfin, et Totor, ravi, en perdait la raison, négligeait son service, débitait des vers sur le champ de manœuvre, croyant commander l'école de peloton, et arrivait généralement au dessert à la pension. Or, un soir, qu'il répétait pour la centième fois à Micheline la même phrase d'amour, celle-ci l'interrompit nerveusement. « Mais vous m'aimez !» s'écria-t-elle, les lèvres serrées par un rire ironique. « Toujours la même antienne. Mais qui me prouve que vous ne mentez pas, que dans un mois, dans 8 jours, demain peut-être, si je vous écoutais, vous n'auriez pas conté une histoire pareille à quelque jolie voisine. « Oh, pouvez-vous croire ? Oh, je crois ce que je veux, mon cher. Ah, qu'autrefois les hommes et les femmes étaient heureuses. Savez-vous comment on les aimait en ce temps-là ? » Elle lui tendit un livre frangé aux marges, comme après un feuilletement fiévreux. « Lisez ce chapitre. Il est question d'un beau gentilhomme de la cour qui suppliait, comme vous me suppliez, une grande et honnête femme, et la dame résistait altièrement aux prières du grand seigneur. Et un après-midi d'avril, la cour étant allée voir des bêtes fauves envoyées au roi par le sultan, l'insensible belle se pencha sur la balustrade de pierre, et comme par mégarde, jeta son mouchoir de dentelle dans la fosse où rugissaient les animaux. Alors, qu'eussiez-vous fait, vous, alors ? Totor comprit qu'il jouait sa dernière carte et il n'hésita pas. « Bien, ce que vit probablement votre beau monsieur, » répondit-il d'un ton distrait. « Il sauta au milieu des fauves et rapporta le mouchoir, n'est-ce pas ?»« Vous feriez cela pour moi, Hector ?» cria la comtesse haletante. « Vous en doutez, comtesse ? Eh bien, il y a maintenant une ménagerie sur le foie à rail et... demain, si vous le désirez, j'entrerai devant tout le public dans la cage des lions. » La comtesse ne prononça pas une syllabe, et s'approchant de Montesquieu, le frôlant de tout son corps, le caressant de ses étoffes soyeuses, d'où s'exhalait une odeur de violette fanée sur la chair, elle lui montra la fin du chapitre comme si elle lui murmurait une promesse sacrée. Et le chapitre finissait ainsi. De ce jour, elle fut à lui pour la vie. Montesquieu avait obtenu à prix d'or la permission du dompteur, et au moment de la parade habituelle, la foule ébahie le vit entrer en uniforme et la cravache à la main au milieu des lions. Il était superbe, un peu pâle, mais les yeux allumés d'une telle façon et d'une telle flamme que les animaux grondaient rageusement dans les coins d'ombre de la rage et n'osaient pas bondir. Et il restait là, les bras croisés, le torse cambré, éclairé par le coup de lumière des quinquets fumeux. Les assistants ne comprenaient rien à cette scène que les pites n'avaient pas tambourinée tout à l'heure sur les tréteaux et que l'affiche n'annonçait pas. Ils applaudissaient, empoignés par le tranquille courage du grand Totor. Les lions impatientés se redressaient, flairant ce dompteur inconnu, rugissant plus fort d'instant en instant. Et soudain, un cri aigu retentit sous la vaste toile de la ménagerie. Épouvantée, éperdument anxieuse, la petite comtesse sanglotait, clamait follement, ne pensant pas à toute cette foule qui l'adorait. « Va-t'en, Hector, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en !» Et elle s'évanouit aussitôt. Le dompteur avait ouvert la porte de la cage à Montesquieu. L'évanouissement fut de courte durée, et Totor n'eut pas à regretter ensuite son imprudente équipée. Comme dans le roman, de ce soir elle fut à lui. On ne raconte pas ses dénouements, on les envie. Malheureusement, les méchantes langues de la ville jasèrent si malencontreusement de l'aventure, et les jaloux griffonnèrent tant de lettres anonymes que le mari revint de ses terres. Il reçut, faut-il le dire, un magistral coup d'épée de Montesquieu, et le bras en écharpe, ne se sentant aucun goût pour jouer une seconde fois les Cassandres, il emmena sa femme à la campagne. Et la pauvre petite comtesse Micheline, désabusée des romans, regrette amèrement dans son exil le beau temps qu'elle a perdu à désespérer son bien-aimé Totor.